Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous prions qu'à son écoute, votre vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse.
Hallelujah! Nous avons soif de Dieu. Et vous savez, c'est ça le secret, c'est d'avoir soif de Dieu. Les amis, le plus grand secret, c'est d'avoir soif de Dieu. David connaissait le secret. Et c'est pourquoi David disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il dit, oh mon Dieu, j'ai soif de toi. Les amis, je vais vous dire quelque chose, je l'ai toujours répété. Que le secret, c'est d'avoir soif de Dieu, non pas seulement quand tu es ici à l'église, mais d'avoir soif de Dieu chez toi. C'est d'avoir soif de Dieu chez toi, au travail, d'avoir soif de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, c'est toi que je désire, c'est toi que je désire, c'est toi que je désire. Oui, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Et vous savez, au fur et à mesure, la gloire de Dieu commence à nous envahir, même des choses qui nous tracassaient ne nous tracassera plus. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus soif de Dieu. Ils ont soif de miracles, mais n'ont pas soif de Dieu. Ils veulent voir la gloire de Dieu, mais n'ont pas soif de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer la soif de Dieu, parce que la soif de Dieu va t'entraîner d'aller loin avec Dieu. Au fur et à mesure que tu vas loin, il y a d'autres choses qu'il ne devrait pas demander. Dieu lui-même te les donne. Il te les donne parce que tu vas loin. Les amis, peu importe comment les épreuves se présentent devant nous, peu importe comment les attaques se présenteront devant nous, mais quand quelqu'un a soif de Dieu, ne vous en faites pas, il s'en sortira. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le Fils de l'homme est en toi. Vous savez, la salutation que l'ange avait donnée à Marie. Marie, prenne des grâces. Le Seigneur est avec toi. Et il dit, tu portes le Fils de Dieu. Tu es plein de grâces, car le Seigneur est avec toi. Tout simplement parce qu'il portait l'enfant Jésus dans son sein. Et nous, nous portons Christ en nous. La grâce de Dieu est sur toi. Il faut réaliser que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi. Et c'est ça qui doit te pousser d'aller plus loin avec le Seigneur. Les amis, le monde a tellement soif de plusieurs choses. Les gens ont soif de plusieurs choses. Il y a seulement peu qui ont la soif de Dieu. Mets ton nom parmi ceux qui ont la soif de Dieu. Désirez Dieu au travail, dans le train, dans le métro. Je ne te demande pas maintenant de commencer à fermer les yeux et de marcher dans le métro en disant « j'ai soif de Dieu ». Non, ce n'est pas ça. La soif de Dieu, c'est un état spirituel. Le désirer plus que tout. Le dire, Seigneur, j'aimerais bien passer plus du temps avec toi. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on passe plus du temps avec lui. Ah, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas entendu, je crois. Attends, quand on aime quelqu'un, on veut passer plus du temps avec lui. Regardez bien. Quand on aime, quand on tombe en amour avec quelqu'un, on a l'envie de passer plus du temps avec. On a l'envie. Et quand on tombe en amour avec Dieu, on a l'envie de passer du temps. 10 minutes n'est plus suffisant. 20 minutes n'est plus suffisant. Les amis, ce qui est grave, c'est d'être membre dans une église, mais tu n'as pas soif de Dieu. Oh non, les gens sont là, indifférents. Et que même quand on dit aux gens, prions, lui, il est dans, il ouvre les yeux, il regarde. Et j'en ai vu partout dans le monde. Mais à la fin, il disait, oh Dieu, faites quelque chose. Mais attends. Ça ne dépend pas du prédicateur. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Les amis, même là, l'ampleur que Dieu veut donner à ta vie va dépendre de la soif que tu as de lui. La soif de Dieu. Et c'est un secret. Alléluia. J'aimerais bien que tu serres la main de quelqu'un, dis-lui, j'apprécie ta présence. Certainement, tu as soif de Dieu. Ah, combien Dieu est, chantons-le, combien Dieu est, et tous verront, combien Dieu est. Amen, ok, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis ravi de vous voir, malgré le froid qu'il fait dehors, mais vous êtes là. Et c'est une grande joie de former une équipe avec vous. Amen. Oh, j'ai la joie de former. J'ai la joie de former une équipe avec vous. Parce qu'avec vous, on peut aller loin. Vous savez, on ne peut pas compter sur les gens fantômes, les fantômes. Je serai là en esprit. Et tu te rends compte, ils disent toujours, je serai là en esprit. Mais moi, je n'ai pas besoin des gens qui veulent être avec moi en esprit. Moi, je veux des personnes qui veulent être avec moi en esprit et en chair. Qui est là? Ah, vous savez, les hommes, le chrétien traditionnel, religieux, disent toujours, oh non, pasteur, on viendra en esprit. Pasteur, on sera là, oh, on sera là. Au moment où il dit qu'il sera là en esprit, il est en train de regarder sa télévision chez nous. Mais moi, je n'ai pas besoin de ton esprit ici, j'ai besoin de ton corps et ton esprit. Tu te rends compte, si dans cette salle, il n'y avait que des esprits là, je vais parler à qui? Moi, je n'ai pas besoin de fantômes, s'il vous plaît. On a besoin de votre présence, quelqu'un peut dire amen. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, au moins, quand tu es là, on peut bâtir une équipe. Parce que je peux te dire, lèvons les mains, prions ensemble. Amen. Parce que vous pouvez saisir la foi et puis déclarer des choses que nous devons voir. C'est ça, c'est ça. Ne tombons pas dans cette routine-là. Des personnes qui ont le temps pour plusieurs choses, mais n'ont plus le temps pour Dieu. Et surtout ici en Amérique. Les amis, en Occident, en Amérique ici, les choses deviennent encore dures si vous ne savez pas. Vous savez que les gens ne trouvent plus le temps pour passer du temps avec Dieu. Ils ont le temps pour travailler, 2, 3 travails. Mais ils n'ont plus le temps pour Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez même, la Bible dit que la foi de plusieurs personnes va se refroidir. Jésus-Christ a dit, est-ce qu'à mon retour, trouverai-je la foi? C'est ça la question que Jésus-Christ a posée. Il a dit, est-ce qu'à mon retour, trouverai-je la foi? Pourquoi? C'est parce qu'il dit que la foi de plusieurs personnes se refroidira. La foi, en fait, la consécration, la détermination, la soif de plusieurs personnes est en train de se refroidir. Beaucoup de personnes, leur foi se refroidissent. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, est-ce qu'à mon retour, trouverai-je la foi? Est-ce que trouverai-je la foi? À mon retour, trouverai-je la foi? Nous vivons dans un monde où, actuellement, on présente tellement de choses. Notre vie est ciblée. Notre vie est ciblée tellement par des choses. Le monde présente, il dit, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas à la page. Si tu ne fais ça, tu n'es pas à la mode. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas à la mode. Si tu n'as pas ceci, tu ne vaux rien. Voyez-vous, maintenant, la valeur de plusieurs personnes est basée sur ce qu'ils ont. Alors, si tu n'as pas ça, tu n'as pas de la valeur. C'est grave. Alors que c'est des choses qu'on peut laisser en un clin d'œil. Alors que la valeur de quelqu'un n'a rien à voir avec ce qu'il a. Oh! La valeur de quelqu'un n'a rien à voir avec le bien matériel qu'il a. Ça, c'est voir les choses d'une manière humaine. Mais quand quelqu'un s'attache à Dieu, Dieu lui donne ce qu'il faut. Béni soit le nom du Seigneur. Ta valeur n'a rien à voir avec ce que les gens disent que tu dois. Oui. Vous savez, quand on parle de la réussite selon l'homme, on te dira que non, il a réussi parce qu'il a ça. Et puis on dit, acclamons-le, il a réussi. Oh, mais la réussite selon Dieu, c'est une vraie relation avec Dieu. C'est cette relation-là qui va te rendre sage. Les amis, il y a d'autres qui ont tout, mais ils ne sont pas sages selon Dieu. Ils ne sont pas sages. C'est pourquoi vous voyez parfois, malgré le bien-être qu'ils ont, le matériel qu'ils ont, ça leur rend fou pour commencer à se comporter comme des animaux. Hello? J'ai toujours regretté, j'ai prié pour quelqu'un qui voulait faire de grosses affaires. Le jour qu'il a trouvé son premier million, il a abandonné sa femme. J'ai regretté, j'ai dit, Seigneur. Ah, le jour qu'il a trouvé son premier million de dollars, il a abandonné sa femme avec 3 enfants. Maintenant, il a plusieurs femmes. Un jour, je l'ai croisé au téléphone. Je dis, monsieur, tu sais que j'avais prié pour toi pour que Dieu t'ouvre des portes, hein, mais je le regrette. Je le regrette. Faites attention parce que tu risques de tout perdre. Parce que si tu penses que c'est million maintenant pour que tu te procures plusieurs femmes, je me suis arrêté là parce que je ne voulais pas continuer la phrase. Parce que Dieu m'a utilisé pour prier pour lui. Désolé. Il a plusieurs femmes, mais il est en train de tout perdre. Les amis, Vous savez, il y a d'autres personnes, parfois ça vaut la peine que Dieu te donne ce qu'il faut pour le moment, jusqu'au moment où tu grandis spirituellement. Parce que si tu n'as pas grandi spirituellement, pourquoi tu vas avoir le matériel qui va t'éloigner loin de Dieu? La Bible dit que servirait-il à une personne de gagner le monde entier, mais si le personne, ça sert à quoi de gagner tout, mais tu as perdu ton âme. Les amis, quelle question? Que servira-t-il à une personne de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme? S'il perd son âme. Je n'ai jamais oublié, à Los Angeles, à Hollywood, on m'a fait entrer dans une grande villa. Villa. La femme d'un président d'un pays. Alors, on me faisait balader. Au bout de quelques heures, je devrais prendre mon avion. On dit, pasteur, on aimerait bien te faire visiter la maison. Vous savez, il fallait que j'aie quelqu'un pour m'amener parce que je me perdais dans la maison. Il y avait tellement de salons de gauche à droite. La maison était tellement immense. À la fin, j'ai mangé le petit déjeuner. Ils m'ont dit, pasteur, est-ce que tu as quelque chose à dire? J'ai dit, oh, certainement. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, pose-lui la question, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors, je vis leurs visages ont changé. Ils ont pâli. C'était devenu froid. J'ai dit, oh, Seigneur, ils étaient très gentils. Ils m'ont donné le déjeuner maintenant. Tu as tout gâché. Le Seigneur m'a dit, où tu leur dis, où tu les gardes. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de ces associations charnelles. Les amis, tu dois comprendre. Quand la Bible dit, Marthe, Marthe, Marie a trouvé la bonne part. Tu t'inquiètes de tout, Marthe. Elle dit, tu t'inquiètes de tout et de rien. Des choses temporaires, éphémères. Mais Marie, elle a trouvé la bonne part. Qui lui sera pas volé. Moi, je vous dis, quand je regarde la télévision, quand je vois combien de personnes qui ont travaillé 40 ans ici au Québec, on n'arrive même pas à leur donner leur retraite. Les amis, c'est ça que vous devez comprendre, que mieux vaut te coller à Dieu. Ta vie, tu ne dois pas bâtir ta vie pour des retraites seulement. Et malheureusement, aujourd'hui, tout le monde, tout ce qu'ils font, ma retraite. Mais tu as vu? Attends, tu hypothèques ta relation avec Dieu pour ta retraite. Tu dois hypothéquer ta vie spirituelle. Tu dois hypothéquer ta relation avec Dieu. Tu dois bafouer ta relation avec Dieu. Tu dois négliger ta relation avec Dieu, tout simplement pour la retraite et avec un morceau de papier. Félicitations, tu as travaillé tellement. Maintenant, tu es bien fatigué. Va rester quelque part là. Ne nous embêtez pas. On verra si on peut continuer à te donner un petit chèque. On va commencer à le réduire petit à petit. Et tu verras comment tu vas finir ta vie. Et le diable, quand tu lui dis merci, il te dit merci à sa manière. Mais David a dit, depuis mon jeune âge, jusqu'au moment où je vieillis, je n'ai pas vu injuste être abandonné ou bien mendier son pain. Les amis, une vraie relation avec le Seigneur va assurer ton futur. C'est bien de travailler. Moi, je conseille, travaille, étudie. Vous savez que je suis quelqu'un qui pousse les gens à aller étudier, travailler. Ayez encore le niveau parce que Dieu va utiliser ce niveau-là. Il faut aller étudier, les amis. Ne laissons pas tout cet espace-là aux païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et maintenant, les païens pensent que non. Ceux qui vont prier, c'est des personnes qui sont sans diplôme, c'est des personnes qui ne vont rien. C'est parce que nous, les chrétiens, on ne veut même pas aller suivre ces formations, les amis. Alors, mieux vaut que vous alliez à ce niveau-là. Mieux vaut qu'on aille à ce niveau-là. Parce que quand on se mettrait dans un bureau, et toi tu parles de Jésus, il voit que vous avez le même diplôme, il voit que vous avez le même... Un certain moment, on va se poser la question, oh, il a quelque chose que moi je n'ai pas. On a le même diplôme, mais lui, il a quelque chose que je n'ai pas. Quelqu'un peut dire amen. Ah, les amis. Ah oui. Il vit avec moi dans le même appartement, mais il a quelque chose de différent. Notre but, c'est de montrer la différence. Le monde, les païens pensent que les chrétiens ne vaut rien. C'est comme si c'est des fuyards qui fuient la vie. Alors, pour maintenant se cacher, ils se mettent derrière Dieu. Non. On a besoin des hommes d'affaires, on a besoin des femmes d'affaires, on a besoin des employés, des personnes qui travaillent dans des bureaux, on a besoin de tout le monde. Parce que, regardez, notre couche sociale est partout. Mais il faut que les chrétiens s'envahissent comme des levires. Vous savez, le levire, pour qu'il fasse gonfler la pâte, il entre à l'intérieur. Vous n'avez pas compris. Chut. Vous savez, le levir, c'est qu'on prépare, qu'on sert pour préparer de baigner. Il faut qu'il entre dans la pâte. Et c'est là où il va être impactant. Mais tant qu'il est hors de la pâte, il ne sera pas impactant. Mais quand il s'infiltre, dites s'infiltrer. C'est le temps que les chrétiens, les amis, nous ne devons pas seulement rester en train de prier. Oh là là là, blablabla. Mais après avoir prié, on serre la ceinture, on dit on go. Les postes dans la ville, on va y rentrer. Sois sage. Sois sage. Sois sage. J'étais très content à l'hôpital. Je crois qu'à métro, à l'hôpital de Maisonneuve, de Rema, je suis parti prier pour quelqu'un. J'arrive, je dis ouh. Tous les préposés aux bénéficiaires que j'ai rencontrés, c'est des gens de l'église. Ils disent, pasteur, c'est notre pasteur. Je dis, ouais, ça marche la prédication. Et je voyais des infirmières auxiliaires, ils disent, pasteur, c'est notre pasteur. Je dis, c'est moi le pasteur. Je dis, vous avez compris la leçon, allez-y. J'ai besoin encore des centaines d'infirmières, je ne sais pas, dans toutes les classes, des préposés dans toutes les classes. Allez-y, dans la ville, travaillez s'il vous plaît, je suis fier de vous. C'est ça être influent. C'est ça être impactant. C'est ça impacter. Tu sais, quand tu es en train de donner, prendre l'attention de quelqu'un, tu es en train de prier Mandro Yokoto Korobosa, Rekamandra Yaka. Ah, si tu savais qui est celui qui prend ta attention. Là, ça, c'est l'interprétation. Mandre Keteki, Ah, Ramandoka. Je suis en train de toucher, mais je suis en train de communiquer. Vous savez, vous êtes des personnes stratégiques. Les infirmières, les sexes, les préposés là, les infirmiers, les médecins, vous êtes des personnes stratégiques. Vous entrez en contact. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il est faible, il est là. Alors que tu ne sais pas que quand tu touches, tu poses ta main, tu libères dans ton cœur. C'est pourquoi il ne faut pas avoir de mauvaises attitudes tout le temps au travail. Il faut être toujours branché. Tu es branché. Tu es branché. Peu importe les infirmiers, peu importe ce que tu as, sois toujours branché. Je ne te demande pas d'aller prier comme ça à haute voix, mais tu pries dans ton cœur. Quand tu touches, la personne dit, mais depuis que cette dame-là a pris ma attention, depuis qu'elle m'a touché, depuis qu'il m'a touché, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je me sens bien. Ah oui, tu te sens bien parce que tu as croisé une personne du notre royaume. Ah, nous sommes des gens du notre royaume. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. J'ai l'envie de changer mon message à là, ne me provoquez pas. Saint-Esprit. Les amis, il y a des moments, parfois, nous ne comprenons pas qui nous sommes. Nous ne comprenons pas qui nous sommes, c'est pourquoi nous plairons, nous pleurnichons avec tout le monde. C'est parce que tu ne comprends pas qui tu es. Et quand on ne comprend pas qui on est, on a tendance de pleurnicher avec tout le monde. Mais attends, tu n'es pas monsieur qui, tu n'es pas madame qui, tout le monde, tu n'es pas n'importe qui. C'est que tu es, c'est dans le... Attends, la Bible dit que Jésus, quand il traversait de rue, vous savez, la Bible dit que Jésus n'avait pas une apparence physique qui épatait des gens. Lisez dans Ésaïe, on va voir, on te dira, il n'avait pas une apparence physique. Les photos là qu'on montre à propos de Jésus, avec, il n'était pas beau comme ça, rien. Rien, physiquement, il n'était pas beau. La Bible dit qu'il n'avait pas l'apparence qui attirait les gens. Mais ça, ce qu'il était, c'était intérieur. À tel point, il était tellement ce qu'il était intérieur qu'il pouvait marcher sur l'eau. Ils ont dit, il n'a pas l'apparence beau, mais il marche sur l'eau. Qu'est-ce qui arrive? Elle dit, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Son visage n'attire pas. Mais il fait des choses étranges. Il marche sur l'eau. Oh non, c'est quelqu'un d'une autre. C'est ça. Oh, vous savez, les gens souffrent. Ah non, on m'a dit que non, mes cheveux ne sont pas bons. Oh, on m'a dit que mon visage n'est pas bien. Ah non, on m'a dit que mes oreilles ne sont pas bien placées. Maintenant, on va commencer à te roder les oreilles et on va commencer à ranger ton nez, tes lèvres. Ah non, il faut pomper ici de l'autre côté. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça que tu n'es pas beau? Qui t'a dit ça? Arrêtez! Vous savez combien de personnes qui souffrent de complexes d'infériorité et qui ont besoin exactement d'être guéries intérieurement? Exactement, c'est ça notre message. Beaucoup de personnes ont besoin d'être guéries intérieurement parce qu'ils souffrent d'un complexe d'infériorité. Il y a d'autres qui disent, je suis trop géant. Ah, c'est pourquoi je suis géant comme. Il y a d'autres qui disent, je suis trop court. Ah, dis, ah, pourquoi? Il y a d'autres qui disent, oh non, mes lèvres ne sont pas bien, mes sourcils là. Alors il est obligé de dire, attends, comment tu veux te donner l'image que les autres veulent te donner?
au lieu d'accepter-toi toi-même.
Accepte-toi. Dites comme David, je bénis le Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Admire-toi, mets-toi devant le miroir. Dis-toi, oh, regardez comment je suis beau, comment je suis belle. Ha! Tu sais que si toi-même tu ne t'admires pas, qui t'admirera? Si toi-même tu ne te valorises pas, qui va te... Dans un monde que nous vivons, si tu ne prends pas le temps de te valoriser, qui va te valoriser? Il y a trop de requins. Tout ce qu'on rencontre, les gens qui savent écraser. Comment t'écraser? Et il y a des gens qui ont le ministère d'écraseur. Ils ont l'onction du diable dans l'écrasement. Ils sont prêts à te dire que non, tu ne vaux rien. Qui t'a dit que je ne vaux rien? On ne tient comme ceci. N'écoutez jamais. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais ce qui compte, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Si Dieu me valorise, pourquoi toi tu dois m'écraser? Écrase-moi comme tu veux, mais Dieu me valorise. Et moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Quelqu'un peut dire un bon amen. Les amis, il faut qu'on décolle, il faut qu'on aille quelque part. Les amis, ce n'est plus le temps. Dieu veut que tu te réveilles de ton sommeil, de ton coma. Dieu veut que tu te réveilles. Plein de commentaires, je ne sais pas combien. Quand les gens dans l'église sont là comme des petits zombies. Malgré toute la parole qu'ils entendent. Oh non, tu passes là, tu sais. Ma vie, je te dis, ma vie est nulle. Nulle. Mais comme tu dis que ta vie est nulle, exactement, ta vie sera nulle. Parce que tu vois les choses selon le naturel. Tu vois les choses selon les cinq sens. Et comme tu vois les choses selon les cinq sens, tu sais que même ton passé, c'est bien le passé. Parfois le passé, le dégât qu'on a fait, nous donne de l'intelligence pour ne plus refaire. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Oh, ouais. On en a fait. Et personne n'est passé au-dessus. On en a fait des dégâts. Alléluia. Mais au moins, tu sais que tu ne peux plus retourner là-dedans. Ah oui, oui, même, tu sais que même ton passé, écoute-moi, je vais vous dire quelque chose. Même ton passé bizarre, bénisse le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose parfois qui va vous choquer. Regardez-moi. Vous savez, Judas, quand il arrive devant Jésus, il dit à son équipe, la personne que je vais embrasser, c'est lui que vous devrez arrêter. Alors il arrive, il dit, ce qui veut dire, c'est lui. Mais je vais vous dire quelque chose. On voit le côté négatif là. Ah, il a vendu Jésus. Mais il a fallu qu'il livre le Seigneur pour que toi tu sois sauvé. Hein? Mais attends. Il a fallu que Jésus soit livré. Ce qui veut dire que Judas. Il fallait qu'il y ait un Judas pour qu'il le livre, pour que moi je sois sauvé. Il fallait qu'il y ait un Judas pour que Jésus meure. Il fallait qu'il ait un Judas pour que Jésus meure et puis ressuscite pour que toi tu sois ce que tu sois. Quelque part, même le Judas de la vie. Même les Judas dans la vie sont nécessaires. Laissez les Judas. Ce sont des mal nécessaires. Mais au moins, il faut qu'il y ait un Judas pour que tu ailles quelque part. Oh! Ça va, il y a des moments où on voit toujours les côtés négatifs. Dans tout ce que nous vivons, on voit seulement les négatifs. Même des problèmes que nous traversons, parfois, ça nous aide à prier plus encore. Oh, Seigneur, fais-moi grâce. Dites merci pour les Judas. Oh! Oh non, il m'a trahi. Il fallait que Christ soit trahi. Pour que tu sois sauvé. Hein. Parce que tu te rends compte, s'il n'était pas trahi, il ne serait pas parti à la croix. Hé, les amis, merci pour les Judas. Oh, pasteur, un tel m'a trahi, un tel m'a délaissé. Il m'a fait la promesse et puis il m'a laissé. Merci pour cette déception. Tu ne sais pas, tu allais te marier avec un boxeur là qui allait enlever tous les dents. Louez le Seigneur pour la déception. Merci pour le Judas. Qui est là? Vous savez, mes amis, il y a une façon de voir. Vous savez, grandir dans la foi,
Dieu s'en fout des traditionnels religieux qui sont là. Ah, alléluia, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi ceci, pourquoi cela? Tout le temps, des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci. Dieu te dit, mais pourquoi tu ne veux même pas me louer? Remercie-moi parce que si j'ouvrais tes yeux pour voir ce qui t'attendait là, tu le regrettes aujourd'hui, mais tu ne sais pas. Lui, on l'appelle Alpha et Oméga. Le premier et le dernier, c'est ça. Premier et le dernier. Bon, revenons, disons revenons. La guérison intérieure. Il y a tellement de choses qui bouillonnent dans ma tête. La guérison intérieure. Qui est là? Lisons un peu dans Jean chapitre 11, Évangile de Jean chapitre 11. À partir du verset 44 jusqu'au verset 46. J'aimerais bien que tu prépares pour moi rapidement ça et puis tu me balanceras Exode 10, 24 et puis Exode 16, 2 à 3 et puis 17, 7. Ok? Ok, Jean 11, 44 et 41 jusqu'au 46. J'aimerais bien que nous lisions. Allons-y, nous n'avons pas ce temps. Ils ôtèrent donc la pierre. On parle d'un certain Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà, continue, continue. Et dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Continue. Parce qu'il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Elle continue. Elle dit, et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. On s'arrête là. Il dit, déliez-le. Vous connaissez très bien certainement cette histoire de Lazare qui faisait partie d'une famille que Jésus appréciait beaucoup et il allait de temps en temps manger là-bas, à Bethanie. Et la Bible dit qu'un jour, il était en voyage, on lui dit que non, ton ami Lazare, c'est là où tu vas manger de temps en temps, est mort. On lui a dit d'abord qu'il est malade. Et puis finalement, on dit qu'il est mort. Quand on a dit à Jésus qu'il était malade, le Seigneur n'a pas pris la peine d'y aller. Mais quand on lui a dit qu'il est mort, il a dit, bon maintenant, allons. On a dit, mais attends, tu avais refusé d'y aller, tu as traîné le pied d'aller quand tu étais malade. Et puis maintenant qu'il est mort, on va quoi? Tu vois, il y a une façon de voir les choses. Elle disait, mais déjà, c'était déjà trop tard. Vous savez, Dieu ne vient jamais en retard. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et parfois, tu as tellement de points d'interrogation dans ta tête, tu commences à te faire des idées que non, Dieu est en retard, ma vie est finie. Réveille-toi ce soir! Alors Jésus-Christ dit, bon, on y va. Il arrive, il trouve toute une foule de personnes avec des flics. Vous savez, ces gens-là, ils avaient des coutumes là. Quand tu voulais pleurer, il y a même des personnes qui venaient pleurer, soit t'aider à pleurer, mais qui étaient payées. Vous les voyez jeter à terre. Ils se tournaient à terre, criaient, frappaient la flatine. C'est parce qu'ils savent que c'est déjà rentré dans le portefeuille. Ouais, c'est ça. Et finalement, Jésus arrive, il entend toutes sortes de... Il dit, mais montrez-moi où... En bref, j'aimerais bien aller plus loin. Il dit, montrez-moi où vous l'avez enterré. Et puis finalement, il dit, oh Seigneur, c'est là, mais il est déjà décomposé. Tu es venu en retard, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours, tu es en retard. Mais Seigneur, tu es vraiment en retard. Hein? Vous savez, il y a des moments où nous voulons donner des leçons à Dieu. Dites à la personne à côté de toi, ne donne jamais une leçon à Dieu. Seigneur, tu es arrivé en retard. Il a dit, mais montrez-moi. Seigneur, tu es arrivé en retard. Il dit, montrez-moi où vous l'avez enterré. Tu es arrivé en retard, Seigneur. Si tu étais là, si tu étais là, vous entendez, on parle conscience. Si tu étais là, si tu étais là, au temps passé, si tu étais là, si tu étais là. Mais tu oublies que Dieu, il est le Dieu du passé, du présent, du futur. Il dit, si tu étais là, les amis, il faut que ta façon de voir les choses change. Il faut que ta vision change. Il faut que ta façon de penser fasse quoi? Change. Il faut que ma façon de penser fasse quoi? Change. Les amis, il y a des moments, parfois, on entre dans notre bulle, et on est là. Et puis, on s'assoit. Vous voyez, la personne est là. Pensant, penseur, philosophe. Et tu vois, il pense sur tout ce qui est arrivé, pourquoi cela lui est arrivé à lui seul.
Dieu, quand je regarde mon futur, il n'y a pas de passé, il n'y a pas eu de futur. Oh, mon passé était complètement démoli. Bon, en tout cas, cette fois-ci, Dieu est venu en retard. Jésus lui a dit, montrez-moi où vous l'avez enterré. Ils ont dit cela, mais il est déjà décomposé. Il a dit, enlevez la pierre. Il a dit, ah, Seigneur, tu demandes trop. Enlevez la pierre. Ici, il fait très chaud. Ce n'est pas au Canada qu'il fait froid, que le corps pouvait rester. Mais ici, là, il fait chaud. Il est décomposé. Vous savez, il y a des gens qui donnent des pronostics comme ça. Dans des cas des gens, ils viendront, ils donneront leur pronostic. C'est déjà trop tard. Et Dieu aime, c'est trop tard des gens pour qu'ils changent le trop tard. Il dit, enlève-moi la pierre. Et puis, certainement, tous ces gens-là qui enlevaient la pierre, certainement, ils disaient, oh, vraiment, on ne sait pas. Ils devraient regarder de l'autre côté parce que ça pue. Enlevez, enlevez. Vous savez, quand on marche avec lui, il a toujours des surprises comme ça. C'est comme ça avec lui. Oui, Dieu, c'est un Dieu de surprises. Pour ceux qui se confient en lui, il va te surprendre. Regarde-moi, je prophétise sur quelqu'un. C'est que Dieu est en voie de te surprendre. Dites avec moi, je reçois. Alors, c'est toujours comme ça. Vous savez, quand tu marches avec des hommes de Dieu, tu marches avec des femmes de Dieu, ah, vous vivrez des surprises et des surprises. Vous savez, Silas disait à Paul, quand on est avec toi, c'est toujours comme ça. Il y a des surprises. Il y a des bons et des mauvais. Il y a d'autres personnes. Oh non, il y a toujours des surprises. Oh, il y a toujours des surprises, mais attends. Quand tu marches avec l'onction, eh bien, il y aura des surprises. Jésus dit, enlevez-moi la pierre. Eh bien, ils ont osé quand même, parce que s'ils ont laissé la pierre fermée, Lazare n'allait pas sortir. C'est pourquoi il y a d'autres choses, il faut oser. Il y a des situations dans la vie qu'il faut oser. Par la foi, simplement. Par la foi, simplement. Tu dis, Seigneur, tu connais le niveau de ma foi, mais tu as donné une mesure de foi. Écoutez-moi bien, si vous lisez dans les épîtres, vous allez constater qu'il n'y a aucune place dans les épîtres où on dit « priez pour que vous ayez la foi ». Il n'y a aucune place dans les épîtres où on dit « demandez la foi ». Non, par contre, on parle de faire grandir la foi. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il est né de nouveau, la Bible dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, que Dieu a déversé dans le cœur de cette personne une mesure de foi. Maintenant, tu as reçu cette mesure que tu dois faire grandir. On ne te dit pas prier pour que tu aies la foi. Non. On ne te dit pas prier pour demander la foi. Non. Tu dois la faire grandir parce que la foi est déjà en toi. La Bible dit que Dieu a déjà donné à chacun de nous une mesure. Maintenant, cette mesure-là, il faut que toi, tu fasses la faire grandir. Parce que les problèmes que tu rencontreras dans la vie, la mesure que tu as parfois, oui, il y a d'autres problèmes, tu pourras t'en passer avec la mesure de foi que tu as. Mais le Seigneur te dit, il y a deux problèmes que tu croiseras dans la vie qui aura besoin d'une autre mesure de foi. Maintenant, il faut la faire fonctionner. Il faut la faire travailler. Ta foi doit grandir. Loué soit le nom du Seigneur. Ah! Et la Bible dit que Jésus s'approche. Parce que ce qui inquiète, ce qui intimide les autres n'intimide pas Jésus. Même l'odeur, non, tout, rien du tout. Il lève seulement la main et dit, papa, je te bénis, je te glorifie. Parce qu'à chaque moment que je demandais toujours quelque chose, tu m'as toujours donné. Tu vois, c'est ça la foi. Il remercie Dieu. Ah, gna, 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 Seigneur, je ne comprends pas. Non, rien. Mais Seigneur, tu n'as pas compris que vraiment ces deux sœurs me donnaient vraiment des bons repas. Comment tu as permis ça? Non, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, je te loue. Parce que tout ce que je t'ai toujours demandé. Vous savez, il y a des moments où nous discutons avec Dieu. Seigneur, mais tu sais, je paye ma dîme. Pourquoi tu permets ça? Louez le Seigneur, toi. Et le diable va te dire, maintenant, désormais, ne payez plus ta dîme. Dis-lui, foutez. Je vais encore donner trois fois. Quelqu'un peut dire amen. Et appelle Lazare. C'est formidable. En tout cas, c'est pas qui. Et je dis Lazare. Sors. Même les séjours de mort ont entendu que c'est lui qui parle là. C'est le maître de tout. Même le séjour de mort est entre. Le séjour de mort a dit, Lazare, on ne peut pas te garder ici. Sors. Parce que c'est lui qui a parlé là. Eh mon Dieu, sortez, vas-y. Il
Le séjour de mort a vomi Lazare. A dit, sors, parce que celui qui parle, là, c'est le maître. C'est le maestro. Rien ne peut lui résister. Tout est possible à lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il parle, personne ne peut résister. Ni le séjour des morts, ni le ciel, ni quoi. La Bible dit que Lazare bondit. On voit quelqu'un qui... Parce qu'il était lié les pieds. Jésus le regarde et dit, libérez-le et laissez-le aller. C'est ça la suite. Il dit, délie-le et laissez-le aller. Regardez-moi, Lazare sort, résistait, vivant, il respire, mais ses pieds étaient liés. Ses mains étaient liées. La bouche était bandée. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont sauvés. Alléluia Jésus. Avec des pieds bandés. La bouche bandée, les mains bandées. Ils sont toujours comme ça. Moi, ma vie ne va pas bien. Vraiment, je ne comprends pas. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne comprends ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi tu as besoin de faufils pour te libérer. Tu as besoin de l'enseignement qui sort ici. On te déclare des paroles. C'est pourquoi on a besoin de vous pour libérer les autres. Ils sont sauvés, ils ont la vie, mais ils sont liés. C'est toi qui dois déclarer la libération de ces gens-là. Loué soit le nom du Seigneur. Wow! Les amis, on est ici pour une cause. Dites, on est ici pour une cause. Dites encore, on est ici pour une cause. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendrez libre. C'est la parole de Dieu qui libère. Jésus dit, libère-le. Jésus donne des ordres. Il dit, libère-le. Libère-le et laissez-le aller. Libère-le et laissez-le aller. Dieu dit, libérez mon peuple, laissez-le aller. Dieu dit, libérez mon peuple, laissez-le aller. Ah, Dieu dit, libérez mon peuple, laissez-le aller. Oh, pays pro. Ah, Dieu dit, libérez mon peuple, laissez-le aller. Très important. Il dit, libère-le et laissez-le aller. Et du coup, ils ont dit, bon, écoutez, le maître a dit. Et puis finalement, Lazare commençait à marcher. Et tout était libre. Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, il y a des choses qui nous maintiennent. Il y a des choses, on est sauvé. Il y a tellement de choses à dire à propos de ce sujet que je peux en parler même pendant 6 mois. La guérison intérieure. Ce que nous devons savoir, les amis, j'aimerais bien aller rapidement. Regardez-moi, lisons un peu dans Exode chapitre 10, verset 24. Projette-nous, balance-nous Exode chapitre 10, verset 24, et puis Exode 16, 2 à 3. Allez-y. Il dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez et servez l'Éternel. On s'arrête seulement là. Pharaon en a vu de toutes les couleurs. Maintenant, il a vu qu'il était fatigué. Il a dit, non, leur Dieu est trop puissant. Il dit, Moïse, prenez ton peuple, allez. Il dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez. Servez l'Éternel. Pharaon libère et dit, allez et puis servez votre Dieu. Mais lisons un peu dans Exode 16. Vous allez voir. Exode 16, 2 à 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Continue. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à sa tête, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim. Regardez-moi, ils étaient sortis physiquement, mais leur cœur était resté. Et donc, ils sont en train de parler de leur passé. Il dit, Moïse, pourquoi tu nous as menés ici dans le désert? Mais quand vous regardez, quand tu le parlais, ils étaient déjà loin, à des kilomètres de l'Égypte. Ils ont déjà traversé la mer Rouge. Ils étaient déjà en plein désert. Et maintenant, ils commencent à faire montrer ce qui était à l'intérieur d'eux. Vous savez, le plus grand problème qu'ils ont eu, le problème, ce n'était même pas leur délivrance. Parce que leur délivrance s'est faite en un clin d'œil. Mais maintenant, ce qui était, c'était de faire sortir l'Égypte dans leur cœur. Les grands problèmes que Dieu a eu, ce n'était pas de les délivrer, de les faire sortir plutôt d'Égypte. Maintenant, c'était de faire sortir l'Égypte dans leur cœur. Parce qu'ils sont sortis physiquement, mais à l'intérieur de d'eux, l'Égypte était là en dédain. Un bon Québécois. Il était là dedans.
l'Égypte et ça a pris 40 ans. 40 ans pour faire sortir l'Égypte de leur cœur. Regardez-moi. Elle dit, pourquoi tu nous as menés ici dans le désert où nous allons mourir de faim? En Égypte, on était bien. On mangeait de la viande. À cette tête. Oh, on était bien. Voyez-vous? Ils étaient liés. Physiquement, ils louaient Pharaon et ses chars et tombaient dans la mer. Le diable regardait, attends. Oui, Pharaon est tombé dans la mer, mais toi-même, tu sais que l'Égypte est en toi. Parce qu'au bout de... Regardez-moi, ce que nous sommes finira par se manifester. Mieux vaut que je prenne du temps d'aller dans la présence de Dieu. Seigneur, je ne vais rien te cacher. Regarde ce qui est caché dans mon cœur. Et même ce que je ne connais pas, dévoile. Au moins, Seigneur, je ne suis pas hypocrite, mais entre moi et toi, de toute façon, on est les siens. Je préfère te dire la vérité. Et Dieu aime des gens comme ça. Alléluia, 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 wouh, alléluia. Moi, je suis spirituel, je suis spirituel. Moi, je suis spirituel. Mais attends, quand tu traverseras la mer, quand tu traverseras le feu, c'est là où ça va sortir. Vous savez, tant que quelqu'un n'a pas encore traversé des moments difficiles, vous ne saurez pas. Attends, c'est là où vous verrez comment ça va sortir. Mais mieux vaut aller dans la présence et dire, Seigneur, je n'ai rien à te cacher. Parce que tout était sorti. Maintenant, il fallait que Dieu fasse un travail. Le travail, quand ils ont parlé, au fait, Dieu savait, mais Moïse, il était innocent. Il dit, oh, le même Jean que je viens de faire sortir de l'Égypte, maintenant, il pense à me lapider. Oh, c'est pas vrai. Attends, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas que c'était ça qui était caché dans leur cœur. Il y avait autant de ça. Il y avait autant de haine comme ça. Ah, il y avait autant de haine comme ça. Ils veulent me tuer, moi, mon petit frère, mon grand frère Aaron et puis Myriam. Ils veulent lapider toute notre famille. Ah, ils ne se souviennent même pas de tout ce qu'on a fait. Eh, mais ils sont sortis de l'Égypte. Mais grâce à moi, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ah, maintenant je comprends ce qui est caché dans leur cœur. Mais en fait, Moïse était étonné. Mais Dieu n'était pas étonné. Parce que Dieu connaissait. Dieu connaissait ce qui était caché. La Bible dit que les hommes regardent à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde à l'apparence interne. Maintenant, le travail que Dieu avait, c'était le travail de faire sortir ce qui était. Il fallait que Dieu leur libère intérieurement. Parce que les physiques étaient déjà hors. Mais comme les physiques est contrôlé par l'intérieur. Les amis. L'extérieur est contrôlé par l'intérieur. Regardez-moi, ils étaient libérés physiquement, mais ils n'étaient pas libérés au-dedans d'eux. C'est pourquoi, maintenant, regardez-moi, les actes que quelqu'un commet est le résultat de ce qui est dans son fort intérieur. Ce que l'homme fait sortir est le fruit de ce qui est dans son cœur. C'est pourquoi nous avons besoin d'être libérés. Parce que là, quand Moïse regardait maintenant il fallait que Dieu fasse un miracle. Dieu a fait ce miracle pour que tout ce qui était caché dans le cœur des Israéliens sorte. Les liens, toutes ces affaires. Vous savez, c'était un peuple qui était resté 450 ans en Égypte. Et ce peuple-là en avait vécu de toutes les couleurs. Ce peuple-là, il voyait comment Pharaon venait avec ses soldats. Ils ouvraient les ventres des femmes juives. Ils prenaient des bébés. Ils les jetaient aux crocodiles, les pharaons qui les mangeaient. Et eux, ils voyaient tout ça. Ils voyaient ce peuple-là pendant 450 ans. Ils ont vu comment on venait tuer les anciens alors que c'était sacré. Un ancien, un vieillard était sacré dans leur coutume. Mais ils voyaient comment on violait des jeunes filles, alors qu'une jeune fille juive, c'était sacré. Mais ils voyaient tout ça. Maintenant, tout ce qu'ils ont vécu en Égypte a créé des remords, des blessures, de tout, des rages, des découragements, à tel point pendant 450 ans, ils étaient bien remplis. Ils étaient bien remplis, on ne peut pas les juger. Ils étaient bien remplis parce qu'ils en ont vu de toutes les couleurs. Vous savez, frères, les amis, il y a des moments où nous vivons de toutes les couleurs dans des maisons que nous vivons. Nous sommes nés dans des familles où nous avons vécu de toutes les couleurs, des abandons, des délaissés, de tout, des déceptions. Et parfois, et tout ça, nous vivons dans une société où nous rencontrons tellement de choses horribles et que ça nous détruit. Un certain moment, on peut s'en passer. Non, on ne peut pas s'en passer, ça reste là. Tu es sauvé, mais tu vois qu'il y a des remords qui est là. Non seulement ça, ça c'est une toute première catégorie, mais il y a d'autres catégories de choses qui nous font mal, malgré qu'on est sauvé. C'est des liens. Combien de fois vous voyez parfois, regardez, moi je regarde parfois, je suis un observateur. Vous savez qu'il y a d'autres familles, tu vas voir que de génération à génération, ils sont dans le bien-être. Et les gens de l'aide sociale, ils peuvent vous le dire que non, c'est une famille, on connaît, ça fait 15 générations. On dit, ah, ils sont comme ça, on les connaît, c'est tout. Vous voyez que c'est une pauvreté héréditaire. Qui est là? Non, je disais, qui est là? Pourquoi vous êtes calme? Qui est là? Il y a des choses héréditaires. Vous savez, les liens proviennent de plusieurs. Il y a d'autres personnes, tu vois que non, c'est une colère familiale. Et les gens qui connaissent le papa peuvent te dire, ah, on connaît son arrière-grand-père. Son arrière. Quand il chauffait, il était prêt à tuer tout le monde. Mais après, si c'est 4 générations, on voit qu'un tout petit, un bon homme de 17 ans, quand il pique des crises, mais c'est parce que c'est un lien qui vient de loin. On dit, mais il a Jésus, mais comment ça? Il a dit, mais c'est un lien qui vient de loin. Maintenant, il faut être conscient de cela pour que la personne commence à prier, déclarer que non, il ne sera plus victimisé, parce que Christ l'a libéré, qu'il est libre. Il faut être conscient, il faut être conscient. Faut être conscient. Je veux dire, ah, quelqu'un peut dire un bon amen. Non, je disais, quelqu'un peut dire un bon amen. Oh, alléluia, alléluia. Je crois que, vous savez, il y a une dame, je crois que c'est aux États-Unis, un pasteur donnait un exemple d'une femme qui priait dans son église avec son mari. Mais ce qui était terrible, c'est que la femme, elle est née dans une famille où sa maman, on ne l'a pas mariée. Alors qu'elle a vécu dans une famille qui, c'était maritalement, ça ne m'allait pas parce que son papa ne voulait rien savoir. Il disait, bon, on va essayer et puis on va rester. Vous savez, il y a des personnes comme ça, 20 ans, on est en train de voir, on va examiner et puis on verra si on peut se marier. 20 ans que vous vivez ensemble. J'en ai vu partout en Europe et des couples. Ah non, nous sommes là, on est en train de s'examiner. Et puis on verra dans 20 ans que vous vous examinez, vous ne voulez pas vous marier. Mais vous avez un problème. Il y a un problème, une telle personne, on ne peut pas lui faire confiance. Alors, cette fille-là, elle a grandi dans une famille qui était comme ça. Sa maman n'était pas épousée. Sa tante, elle aussi, on ne l'a jamais épousée. Sa sœur, on ne l'a jamais épousée. Ils vivent toujours comme ça. À un certain moment, elle était là. Elle était là. Et elle était là. Et puis elle était là. Et finalement, il croise un monsieur. Lui aussi, il dit, non, écoutez, avant que je t'épouse, on va d'abord sortir. Et en sortant, à un certain moment, c'était à la mort. Et la fille souffrait. À un certain moment, elle a dit, mais là, je commence à voir que quand je pousse un peu plus loin de ma famille, il me semble que ce sont des choses qui sont... Mais attends, je ne comprends plus. C'est quoi ça? Elle dit, pasteur, je ne comprends plus. Je vois que comme si toute la lignée, on est comme ça. On est toujours comme ça. Et même l'autre là aussi ne veut plus de moi. Il veut seulement m'abuser. Et puis, les amis, il y a d'autres choses. Quand à un certain moment, on entre un peu, on regarde et dit, écoutez, moi, je suis un enfant de Dieu. Ce que je vois là, cette lignée-là que je vois là, ce n'est plus pour moi. Quand je me mets à genoux, je commence à dire, je vais rompre ça. Je vais les rompre parce que ça ne peut pas continuer avec moi. Moi, je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, je ne veux plus que ça continue. Je ne veux plus que ça continue sur mes enfants. Je ne veux plus que ça continue sur les enfants de leurs enfants. Ce qui veut dire qu'il faut que je l'arrête dans la prière. Maintenant, je dis, attends, Satan, je crois que tu t'es trompé. Et toi, lien, je crois que tu t'es trompé. Oui, moi, je ne fais plus partie de cette famille-là dans l'esprit. Parce que mon esprit est né de nouveau. Je fais partie maintenant de la famille royale. Comment veux-tu maintenant que ces affaires-là continuent à rester? Je les confesse. Je confesse que non. Je demande pardon pour toutes ces bêtises. Mais maintenant, ça s'arrête là. Je le refuse au nom de Jésus. Je me trempe dans le sang.
Tu es là. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité te rendra quoi? Libre. Il y a d'autres, parfois, c'est des maladies. Ah non, dans leur famille, ils ont toujours des maladies. Tiens, attends, on te dira, ah, leur ancêtre là, il est mort comme ça. Et l'autre, ça, il est mort comme ça. Et l'autre, elle est morte comme ça. Et certainement, tu vois que c'est toute une lignée. Tu dis, c'est quoi ça, cette affaire? Non, moi, ça ne marche pas. Moi, j'ai changé de cette lignée. Ah non, je suis un enfant de Dieu. Désolé dans l'esprit, parce que tout ça, c'est d'abord spirituel. Est-ce que vous savez que c'est spirituel? Hein? C'est des choses qui se passent dans l'esprit. Maintenant, toi, tu dis, mais non, mais moi, j'ai changé. Moi, j'ai changé, je ne suis plus là. Moi, je suis une créature toute nouvelle qui n'a jamais existé. Ce qui veut dire que, attends, les stops, on les met aujourd'hui. On arrête ça là-bas. C'est là où tu t'élèves. Maintenant, tu commences à déclarer l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Les amis, il y a des moments où nous prions sans connaître vraiment comment prier. Mais maintenant, quand tu vois ça, tu pousses un peu là, tu dis, bon, maintenant, j'ai compris, je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ, étant une nouvelle créature en Jésus. Je ne vis plus pour moi, je vis pour le Seigneur. Ah, je transporte Dieu à moi et Dieu ne peut pas collaborer avec ça. Maintenant, je vais arrêter tout ce qui est héréditaire dans le nom de Jésus. Là, tu commences, là, tu peux même gêner, tu peux briser ça. Continue. Ah, c'est tellement grand, c'est tellement grand, c'est tellement... Ouf. C'est des choses. Il y a une fille, je crois que. Elle a vécu quelque chose de bizarre. Sa maman a été chassée par son mari. Alors, l'enfant reste avec la deuxième femme. Un jour, la deuxième femme, tu sais, la maman. Elle peut ne pas être là, mais elle reste toujours une rivale. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? La maman, là, s'est piquée de colère, et puis elle dit n'importe quoi de là. Et elle lui déclare des paroles, dit, toi, de toute façon, tu resteras toujours une femme, tu seras une femme de second rang. Et cette fille-là, ça l'a écrasée. Elle a fui la maison. Mais la fille était en train de donner le témoignage. Je dis, ce n'est pas possible. Les amis, ce qui l'a embarqué, c'est qu'à tout moment, c'était des hommes mariés qui venaient vers elle. Elle a dit, mais ce n'est pas normal. Moi, je veux me marier. Mais toujours des hommes mariés qui viennent. Et c'est ça. Et malgré tout l'effort, c'était des hommes mariés qui venaient toujours vers elle. Des hommes mariés. Elle dit, ah, tu es jolie. Ah, là. Je dis, mais attends. À un certain moment, elle a dit, ce n'est pas normal. Comment se fait-il que toujours c'est des hommes mariés? Elle a résisté, mais à un certain moment, elle a craqué parce que les offres qu'elle recevait, c'était seulement des hommes mariés. Un jour, elle a dit, écoutez, je vais saisir l'opportunité. Et elle est restée dans cet état-là. Un jour, elle entend parler de Jésus. On lui parle de Jésus. Elle dit, mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis, elle pousse un peu le raisonnement plus loin. Elle voit maintenant la malédiction que cette dame l'avait déclarée. Parce que c'est elle qui l'a élevée. Tu seras toujours une femme de seconde. Elle dit, ah bon? Elle a dit que maintenant que Christ est à moi, je vais me débarrasser de ça. Et elle était la deuxième femme. Elle a dit non. Non seulement ça, maintenant que je connais Christ. Elle dit, monsieur, bye bye. Les gens l'ont dit, tu es fou. Tu es folle. Comment tu peux faire ça avec toutes les liasses qu'il te donne? Il a dit, il est en train d'expliquer que la première nuit qu'elle s'est vraiment bien endormie, c'était le jour qu'elle a dit bye bye, coucou. Elle a dit, elle était complètement libre. Mais elle a dit qu'elle a tiré son attention plus loin. Elle a entendu la malédiction que cette dame l'a dit, que tu ne seras qu'une femme de deuxième rang. Hello? Hello? Les amis, il y a des liens qui peuvent venir de loin. Il faut savoir les détecter. Et quand tu pries, tu prends au sérieux pour les briser et tu déclares ton identité en Christ. Parce que les amis, ce n'est pas à se jeter à terre. Ce n'est pas en jeûnant 17 jours. Mais non, la force va résider par rapport à ce que Christ a fait.
tu dis que non, cette personne-là n'est plus lui. Je suis une nouvelle personne en Christ. Je viens de faire tout ce qui a été dit. C'est pourquoi là où Dieu, la malédiction déclarée contre toi sans cause n'a pas d'effet. Il faut apprendre à annuler. Annuler des choses. Annuler des choses. Les amis, en Christ, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Même si tu es né dans une famille où la misère, la pauvreté, c'est votre identité. Tu dis en Christ, ce n'est pas ce que Christ dit. Et la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Refusez tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu dit. Et ce n'est pas un pasteur qui le fera pour toi. C'est toi qui dois recevoir l'enseignement et prendre l'adhésion en disant, mais non, je confesse et je décrète. Je déclare et je déclare l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Ce qui veut dire que Satan, peu importe le manigance, tu ne peux plus régner sur moi. Tu ne peux plus régner. Tu ne peux plus régner. Mais quand tu fais ça, mets ta vie en règle. 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 Je vous ai déjà donné le témoignage d'une fille que je priais pour elle à Paris, qu'on a jeté une maladie qui l'a transformée en crocodile. Et toute sa peau était devenue la peau d'un crocodile. Vous savez, elle sortait avec le mari de quelqu'un. Elle sortait avec le mari de quelqu'un. La femme de ce mari est restée en Afrique avec 3 enfants. Et vous savez, dans la ville de Paris, parisien, tu dis, attends, entre-temps, on doit se dépanner. Elle rencontre le mari de quelqu'un, le mari rencontre un beau, ils commencent à vivre ensemble. La fille est tombée en grossesse. La femme de ce monsieur-là, en Afrique, son papa, un grand marabout. Ils ont entendu les nouvelles, ils disent, oh, on va régler ça. Comment faire pour que cette femme-là, que cet homme-là déteste cette femme? Parce que c'est sa beauté qu'il a tiré maintenant, on va faire quelque chose pour qu'on la déteste. Ils ont soufflé, ils ont fait leurs incantations, ils ont donné une maladie. La peau de cette fille-là, moi je le vis avec mes yeux, les amis, la peau de cette fille, qui a déjà vu un crocodile? La peau de crocodile, jusque-là, elle s'est grattée avec le couteau comme ça. Elle ne pouvait pas porter rien, elle devrait seulement se couvrir un habit. Vous savez, la femme d'un colonel militaire m'a amené là à Paris, elle m'a dit, pasteur, regarde le cas. Je regarde le cas, je dis, il y a maladie et maladie. Il y a d'autres qui sont donnés. Toute maladie est diabolique, mais il y a d'autres. Toi-même, tu l'as provoqué. Tu es parti la tuer. Je dis, non, il faut que je parle avec cette fille. Je dis, madame, s'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes, je vais parler avec. En parlant avec elle, oh, elle a tout vomi. Oh, non, je dis, le bébé là, qui est là, à qui? À qui? Ah non, il n'est pas là. Je dis, est-ce qu'il t'a épousé? Oh non, tu sais, Paris, pasteur, tu sais, le Paris. Je dis, Paris, c'est quoi Paris? C'est quoi Paris? Vous savez, les gens vous diront, tu sais, Canada, tu sais, Montréal. Mais c'est quoi? Tu sais que quand tu as une relation avec le Seigneur, n'importe où tu iras, tu peux être au Japon, tu peux être en Australie. La crainte de Dieu, le respect, la révérence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as changé de milieu géographique que non, Dieu l'a changé. Qui t'a dit ça? Je dis, madame, dis-moi la vérité. La jeune fille, dis-moi la vérité. Elle a dit, oh, je sors avec toi. Oh, nous sortons. Ah, nous sortons. Vous sortez pour aller où? Vous savez, le langage. On est en train de faire la vie. On passe la vie. Exactement, vous passez la vie pour aller à la mort. Et quand elle a expliqué, je dis, madame, écoute, tu vois que tu es dans une relation qui n'est pas la vôtre. Et là, cette maladie-là, c'est quelque chose qu'on t'a visé. Elle a dit, je vais prier pour toi, mais tu dois donner vraiment ta vie à Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Elle a pris le Nouveau Testament blanche. Elle m'a brandi. Elle a dit, pasteur, je crois en Dieu. Regardez mon Nouveau Testament. J'ai dit, oh, même n'importe qui peut porter un Nouveau Testament. Vous savez, le fait de dormir avec la Bible, d'avoir la Bible dans ton sac, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es entré dans un McDo que tu es un Big Mac. Le fait d'aller au garage ne fait pas de toi une voiture qui est là. Je disais qui est là. Provoque pas. Les amis, non, je porte ma Bible. Tu vois, je dors avec ma Bible. Je prends l'oreiller. Ma Bible, je le mets sous l'oreiller. Alors, ça me protège. Trompe-toi, l'oreiller. La Bible dans l'oreiller ne te préserve pas. C'est de l'Éthiopie. Il faut que la parole soit en toi. Tu dois la vivre. Marche dans la sainteté. Qui est là? J'ai dit, madame, on va prier pour toi. Maintenant que tu t'es repenti, on va prier. Elle dit, dans le nom de Jésus. Amen, amen, je suis parti. Le matin, elle s'est réveillée. Elle a trouvé sa peau sur le lit. La peau, les écailles à terre, les écailles à terre. Les amis, il faut voir. Les écailles à terre. Sur le matelas. Ah, la femme du colonel a regardé, pasteur, miracle. Sa peau était devenue jolie. J'ai dit, madame, n'essaye pas encore d'oser parce que le pire viendra. Les amis, Jésus-Christ, quand il a pardonné à quelqu'un, il a dit, n'essaye pas de revenir. Vous savez, quand le Seigneur nous pardonne, il nous dit, ne reviens pas. Parce que le pire risque de te... Qui est là? Non, je disais, qui est là? Ouais, sa guérison devrait d'abord commencer de l'intérieur à l'extérieur. Ah, je regarde l'air, je ne veux pas trop vous garder. Bon.
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 514-931-2954 ou nous visiter sur Internet au www.christenaction.com.